Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polotec
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Tal Brutman pour Les 100 mots de la Shoah, coécrit avec Christophe Taricon et paru dans la collection Que sais-je, aux presses universitaires de France. Tal Brutman, vous êtes historien, membre de la commission Mémoire et Transmission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et bien connu de nos auditeurs, notamment pour vos nombreux travaux sur les politiques antisémites en France durant la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez décidé cette fois, avec Christophe Taricon, de créer cet abécédaire, ces 100 mots de la Shoah, des mots pour la plupart connus, mais que vous avez choisi de remettre dans leur contexte, dans leur perspective historique et idéologique, afin d'établir un vocable commun à la fois au grand public et aux historiens. Vous avez choisi donc de revenir sur des mots communs, mais aussi des noms, des lieux, des états, des organisations, des acronymes. C'était pour vous une nécessité, alors qu'on n'a jamais autant parlé de la Shoah dans les médias ou même dans la fiction, que d'écrire ce livre aujourd'hui?
Est-ce que c'est une nécessité? Sans doute, oui. Je ne suis pas certain qu'on parle plus aujourd'hui de la Shoah que précédemment. Je pense que depuis 30 ans, on parle beaucoup de la Shoah. Pas nécessairement bien, c'est-à-dire en liaison avec les travaux des historiens. Et c'est là où s'inscrit cette démarche, c'est qu'il s'agissait en fait de mettre à disposition, non pas du grand public, ça serait sans doute exagéré, mais en tout cas d'un public d'enseignants dans le secondaire, d'étudiants à la fac, de le mettre à disposition les principaux mots ou idées qui ont été dégagés par l'historiographie, tout simplement parce que vous avez affaire à un événement, et pas uniquement la Shoah, mais la Seconde Guerre mondiale, qui est omniprésent dans nos sociétés depuis la fin de la guerre, qui véhicule énormément d'images et de représentations qui sont pas forcément exactes, conformes à la réalité historique, qui sont profondément ancrées, et qui en même temps induisent des incompréhensions, ou même peuvent déboucher sur des rivalités, des conflits de mémoire, alors que si on pose les choses à plat d'un point de vue scientifique, on se rend compte que les choses peuvent être beaucoup plus simples en termes d'intelligence et de compréhension. Et donc l'idée, c'était d'essayer d'exposer autour de 100 mots, puisque c'est l'exercice imposé de cette collection, l'histoire de l'événement qui est connu sous le nom de Shoah.
D'ailleurs, vous ouvrez ce livre avec 6 termes utilisés pour nommer la Shoah, pour nommer la destruction des Juifs en Europe. Enfin voilà, il y a 6 termes comme ça qui sont empruntés à différents.
En fait, il y a eu plusieurs termes, pas uniquement 6. On a pris les 6 plus importants historiquement ou en termes d'usage. Il y a eu de très nombreux termes utilisés pour désigner cet événement. En France, on appelle la Shoah. Il y a Holocauste qui a été utilisé en France après la fin de la guerre jusqu'au début des années 80, qui a été supplanté par Shoah. Il y a Khurban qui est un terme yiddish d'origine hébraïque qui a été utilisé dans les années de guerre et à la sortie de guerre, etc. etc. Et évidemment, il y a le terme de solution finale de la question juive qui est le terme nazi. En fait, il y a régulièrement des polémiques autour de l'usage du terme Shoah, par exemple, ou du terme Holocauste. L'objectif, c'était de poser à plat les définitions et de les recontextualiser, parce que il n'y a pas un terme qui serait plus légitime qu'un autre. En fait, chacun de ces termes, de cette demi-douzaine de termes qu'on a retenus et qui correspondent à une réalité historique, ont tous une perspective et une origine différente. C'est-à-dire que si on prend Holocauste par exemple, c'est un terme anglo-saxon qui est utilisé pendant la guerre dans la presse américaine ou britannique pour désigner le sort des Juifs et pas uniquement des Juifs en Europe. Si on prend solution finale, c'est le terme nazi qui est utilisé pour désigner le sort des Juifs. Si on prend le terme Khurban, c'est celui qui est utilisé dans les ghettos par les victimes au moment où s'accomplit le programme d'assassinat, etc., etc. Et le terme de Shoah, lui, est utilisé au moment de l'événement aussi. Il n'est pas postérieur à l'événement, mais dans un lieu très particulier, le Yishuv, dans la Palestine mandataire. Il est utilisé par les Juifs du Yishuv pour désigner la catastrophe qui est en train de s'abattre sur les Juifs d'Europe. En fait, tous ces termes ont tous été utilisés pendant la guerre et désignent tous le sort des Juifs, mais d'une perspective différente, qu'il s'agisse des victimes à proprement parler en Europe, qu'il s'agisse des bourreaux ou qu'il s'agisse des spectateurs, ce qu'on appelle les bystanders, qui se traduit difficilement, mais les spectateurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas directement impliqués dans le processus de destruction. Et pour nous, c'est essentiel de poser ça comme préambule à l'entrée dans le livre, tout simplement pour déminer les éventuels conflits qu'il y aurait autour de l'usage de tel ou tel mot. Il ne s'agit pas de prescrire, chaque terme est légitime, encore faut-il savoir pourquoi on l'utilise.
C'est ça, vous mettez aussi l'accent sur le fait qu'on a longtemps continué finalement à utiliser le langage des bourreaux pour désigner des actes de barbarie qui de ce fait deviennent plus flous, plus euphémisés. Vous parliez notamment de la solution finale, mais on peut en trouver un certain nombre d'autres.
Effectivement, c'est un des poids, mais qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, c'est l'héritage du vocabulaire soit du Troisième Reich, soit des gouvernements antisémites un peu partout en Europe, en France, le gouvernement de Vichy, qui ont mis en place tout un ensemble de termes, de mots liés à leur politique de persécution pour les Juifs ou pour d'autres catégories de victimes, et qui ont fait souche. Alors, juste un exemple pour vous montrer que ça ne concerne pas que les Juifs et sur des choses très importantes. Par exemple, le programme d'assassinat connu sous le nom de T4, qui vise certaines catégories de malades, était justifié comme étant une opération d'euthanasie. Or, l'euthanasie, c'est une démarche volontaire, quelqu'un qui veut qu'on mette fin à ses jours. La T4 n'a rien d'un programme d'euthanasie, c'est une politique d'assassinat. Or, cette idée-là, enfin ce mot-là d'euthanasie qui est utilisé par les nazis pour justifier le processus, il continue à être utilisé jusqu'à aujourd'hui, alors que ça n'a rien d'une politique d'euthanasie. Et évidemment, il en va de même avec solution finale de la question juive, dont on a perdu de vue énormément de choses. D'abord, c'est une phrase hautement antisémite. Il y aurait un problème juif, c'est les antisémites qui ont un problème avec les juifs, et il y aurait une solution définitive à apporter à ce problème. Avec en plus quelque chose qui est difficile à saisir quand on ne connaît pas l'histoire à proprement parler des politiques antisémites mises en œuvre par le Troisième Reich, c'est qu'il y a eu plusieurs solutions finales. Et que nous, on a retenu que la solution finale définitive, l'assassinat. Mais entre 1940 environ, où ce terme commence à être utilisé par les nazis, et la politique d'assassinat proprement parlée, il y a plusieurs solutions qui sont estimées comme étant finales, notamment de monstrueux, enfin de gigantesques programmes de déportation de millions de juifs vers Madagascar, par exemple, ou ensuite vers la Sibérie. Passer un temps, c'est ça que les nazis appelaient solution finale. Et ça permet d'illustrer une chose, c'est que le vocabulaire nazi, ce que Victor Klemperer avait appelé la LTI, la langue du Troisième Reich, est une langue qui est vide de sens. C'est-à-dire que ça ne désigne pas la réalité, ça cache la réalité. Solution finale, la question juive, ça peut être tout et n'importe quoi.
Justement, à ce sujet, vous évoquiez Victor Klemperer, il y a une entrée qui concerne la LTI, donc la langue du Troisième Reich. Et c'est une entrée importante pour ce livre-là, puisque c'est là que vous allez définir la façon dont les nazis ont transformé aussi la langue allemande.
Effectivement, et en même temps, et ce qui est intéressant quand on réfléchit à ce genre de thématique, c'est que, évidemment, la LTI est propre au régime nazi, mais en fait, chaque régime politique modèle le vocabulaire et l'imprègne. Quand on parle de la République française et des valeurs de la République, c'est liberté, égalité, fraternité, sauf que la République en Chine, ça n'a pas du tout les mêmes valeurs que la République en France. Donc vous avez là un exemple qui n'a rien à voir avec la LTI, mais on a un rapport vicié avec le vocabulaire, on ne fait pas attention au vocabulaire. Or, la LTI, c'était un moyen d'aseptiser énormément de choses au sein de la société, d'abord allemande, puis ensuite en Europe, et de cacher la réalité. Cacher la réalité par mille façons. Vous avez la création d'une langue qui use d'acronymes en permanence, qui évidemment euphémise, etc., etc., et qui permet au régime d'asseoir son contrôle sur la société in fine. Et ça se reflète avec solution finale, mais on pourrait multiplier les exemples par dizaines, et il y en a certains qui restent en usage, y compris dans la langue française. Par exemple, il y a cette expression de « bien juif » qui avait été au cœur de l'actualité dans les années 90 sur la spoliation des biens juifs, sauf que cette expression, c'est une expression antisémite. Aucun bien ne s'est converti au judaïsme. Il n'y a pas de biens juifs à proprement parler, il y a des biens qui appartiennent à des juifs. Sauf que pour les antisémites en Allemagne et un peu partout en Europe pendant la guerre, les juifs contaminent les biens qu'ils possèdent, et donc ces biens deviennent de fait juifs. Si on remplace le terme juif par chrétien ou bouddhiste, vous voyez que bien chrétien, ça n'a aucun sens. Sauf que bien juif, ça a pris un sens concret pendant la guerre, ça continue à être en usage, évidemment pas avec une dimension antisémite, mais on a fini par plus faire attention à ce sens des mots. Or, vous avez là une phrase hautement antisémite et totalement absurde. Il n'y a pas d'immeuble juif. Sauf pendant la guerre, où les antisémites pensent que les juifs ont contaminé l'immeuble où ils habitaient.
Oui, c'est ça qui est aussi très intéressant dans ce livre, c'est que vous remettez vraiment en perspective. Notamment, il y a cette question de l'usage que vous dites, de plus répandu justement parmi les historiens, de centres de mise à mort au lieu de camps d'extermination.
Là, on touche du doigt un des problèmes majeurs que j'évoquais initialement, c'est que depuis la fin de la guerre, on parle des camps d'extermination. Sauf que ce terme-là, depuis 1961 et l'ouvrage monumental de Raoul Hilberg, La destruction des Juifs d'Europe, il est absolument pas plus utilisé par les historiens du champ pour une raison très simple. Un camp d'extermination, c'est quelque chose qui est contradictoire. Un camp, c'est un lieu où on rassemble des gens, un camp militaire, un camp de vacances, voire un camp de concentration, on détient des gens, et extermination, on assassine. Donc c'est absurde d'accoler deux termes qui sont contradictoires. S'il y a un camp, c'est pas lié à de l'assassinat. La politique qui concerne les juifs, elle passe pas par un système de camps à partir de 1942, elle passe par des centres de mise à mort, c'est-à-dire des lieux vers lesquels on achemine les juifs pour les assassiner. Et puis il y a une autre dimension très importante qui avait été pointée par Hilberg, c'est que le terme d'extermination, ça relève de la langue prophylactique, c'est-à-dire on extermine de la vermine, on assassine des êtres humains. Et de fait, cette expression « centre de mise à mort », elle permet de comprendre à quoi on a affaire. Ça permet justement d'éviter tout un ensemble de pièges, camp d'extermination, camp de concentration, somme toute, c'est des expressions qui se ressemblent, donc les différentes catégories de population ont été dans les uns ou dans les autres, et au final, tout le monde a été victime des mêmes politiques. Or, les centres de mise à mort n'ont été érigés que dans le cadre de deux politiques. La première, chronologiquement, c'est l'opération T4 contre les malades, et la deuxième, c'est la solution finale contre les juifs. Et vous avez là un terme qui permet de qualifier directement une réalité. Toute personne qui rentre dans ces lieux est immédiatement assassinée. Ça, c'est la réalité du centre de mise à mort. Et c'est dit explicitement par le terme lui-même.
Oui, c'est tellement explicite qu'on se demande comment le terme, justement, de camp de détermination a pu rester aussi longtemps dans le langage commun.
C'est un effet d'accumulation de différentes choses. D'abord, c'est le terme qui est en usage à partir, enfin, pendant la guerre elle-même.
Oui, pendant la guerre.
Pendant la guerre.
Les nazis.
Non, justement, les nazis ne nomment pas ces lieux-là. En fait, ces lieux ne sont jamais nommés explicitement par les nazis. Ils appellent pas.
Des acronymes ou des.
Même pas. Ils appellent ça par le nom des unités qui sont attachées. Ouais. Si vous prenez Chelno, qui est un des centres de mise à mort, c'est appelé Sonderkommando avec le nom du SS qui dirige l'unité de tueurs. C'est-à-dire unité spéciale et le nom de l'un des officiers SS, et il change régulièrement. Donc le lieu n'est pas nommé à proprement parler. C'est les soviétiques qui vont nommer ces lieux-là des camps d'extermination, et ça va devenir, en fait, le terme extermination est utilisé par la propagande soviétique dès 41-42 dans le cadre de la propagande pour mobiliser la population soviétique, et du fait du poids de l'URSS au sortir de la guerre et de l'influence des différents partis communistes, notamment en France, vous avez ce terme de camp d'extermination qui se répand et qui s'ancre. Si vous regardez toutes les publications dans les années qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est ce terme-là qui est utilisé. Et en fait, l'expression « centre de mise à mort », elle est créée ex nihilo par Raoul Hilberg. Donc en fait, c'est Hilberg qui propose un terme plus concret, plus adéquat, pour désigner une réalité qui jusque-là était qualifiée improprement. Et de fait, vu que le terme s'est ancré, il a toujours été utilisé, continue à tout le temps être utilisé, tout le monde le connaît. En revanche, centre de mise à mort, sorti des historiens, peu de gens le connaissent. Donc, vu que peu de gens le connaissent, les grands vecteurs, on va dire, les médias ou l'éducation, ne veulent pas l'utiliser parce que justement peu de gens le connaissent, et vous êtes dans une sorte de cercle vicieux où, puisque tout le monde utilise camp d'extermination, on va continuer à utiliser camp d'extermination puisque l'autre terme est utilisé de façon minoritaire. Donc c'est dire que c'est un combat, ça serait exagéré, mais petit à petit on voit que maintenant, si vous prenez l'éducation nationale, le terme de centre de mise à mort est en train de s'imposer, mais il aura fallu, Hilberg c'est 61, c'est on ça. Est en 2016, voilà, il faut plus de 50 ans pour réussir à ce que la réalité du travail des historiens entre, soit popularisée dans le grand public.
Comment vous avez choisi ces 100 mots justement?
Alors concrètement on a fait des listes, on a écarté, retenu, vérifié, changé. Au départ on a dû monter au total, je sais pas, peut-être 150 ou 160 mots. sur différentes idées, enfin sur des lieux, sur des notions. Et puis ensuite, on a taillé, puisqu'on était contraint, c'est 100, c'est pas 101. Et en faisant des choix, alors il y a des mots qui n'y sont pas, qui peuvent nous être reprochés, sauf qu'il fallait faire des choix. Voilà, donc on va dire qu'il y a sans doute 70 ou 75 mots qui sont communs à tous les historiens qui voudraient... qui voudrait écrire 100 mots, et puis après, oui. Il y en a un quart qui vient de nous pour des raisons de choix. Par exemple, on a retenu une personne nominativement, une parmi les 6 millions de victimes, oui. Pour donner un exemple. Voilà. Un exemple d'une victime dont on peut écrire une biographie. Oui. C'était une manière de montrer que, vu qu'on consacre des entrées au bourreau, que les victimes avaient aussi leur place. Après, il y a deux termes dont on se serait passé pour deux raisons différentes, mais qui sont des termes imposés. D'abord, le mot de négationnisme, qui à notre sens n'a pas sa place si on parle des 100 mots de la Shoah.
Et alors pourquoi ? Par qui il a été imposé ?
Par la réalité, c'est que depuis quelques années, vous avez un retour en force du négationnisme, que théoriquement, il n'a rien à faire dans le champ historique, puisqu'on a affaire à une idéologie antisémite et rien d'autre. Voilà. Mais on est obligé de l'inclure là-dedans, justement, pour donner des éléments pour démonter ses propos. Et l'autre terme qui parasite un peu, c'est la question des alliés à laquelle on a dû...
Oui, c'est ça. On sent vraiment que c'est un livre qui a été écrit en 2016, quoi, qui reflète... C'est deux points, effectivement, qu'on peut noter. Et pourquoi, alors, un chapitre si long sur les alliés ?
Bah, parce que c'est une question récurrente, notamment chez les enseignants ou les étudiants qui sont la cible première de ce livre, c'est pourquoi les alliés n'auraient rien fait. Or, enfin, tous les travaux le montrent depuis des décennies, c'est pas que les alliés n'ont rien fait, c'est que quand commence la solution finale, le Troisième Reich domine l'Europe, et il n'y a que l'Angleterre qui se bat contre le régime nazi, les soviétiques qui défendent Moscou. L'immense majorité des victimes de la Shoah ont été tuées avant même que les alliés ne remettent le pied sur le continent européen. Et ensuite, sans trop rentrer dans le détail, vous avez une question qui est morale et ahistorique, pourquoi les alliés n'ont rien fait, ce qui permet aussi d'une certaine façon de faire peser une culpabilité beaucoup plus large que sur les seuls bourreaux, le Troisième Reich et les alliés, et qui s'exonère de toutes les réalités à la fois d'histoire concrète, d'histoire militaire, de toute forme d'histoire, et puis aussi qui est totalement erronée, puisqu'on pourrait dire aujourd'hui pourquoi est-ce que personne ne fait rien sur la Syrie, mmh. ou sur le Rwanda il y a 20 ans, etc., etc. Or, il suffit de regarder notre contemporain pour comprendre que c'est pas aussi facile que ça. De dire, il y a eu un événement qui s'est passé dans l'histoire, personne n'a rien fait, c'est faux, les alliés se battent contre le Troisième Reich. Et dire, ils n'ont rien fait, c'est oublier qu'ils mènent la guerre contre les bourreaux. D'une certaine façon, cette question-là, elle peut être légitime, sauf qu'elle est ahistorique et morale. C'est une façon de poser des fausses questions. Alors, elle est importante, elle soulève des interrogations, sauf qu'il faut la mettre en perspective. Et c'est une question qui a été réglée par les historiens, notamment israéliens et américains, au début des années 80, en montrant toute l'absurdité. Et si vous regardez en Israël, le plus grand historien en Israël, qui est Yehuda Bauer, par exemple, passe son temps à écrire dans Haaretz pour expliquer à quel point cette question est viciée et n'a pas de sens. Et vous avez là l'historien le plus important d'Israël, qui a eu le prix Israël, justement, qui reconnaît les intellectuels et les artistes. Et il a beau multiplier ses prises de position, exposer les faits, il n'en demeure pas moins que régulièrement, vous avez cette question qui est reprise dans la politique israélienne, et etc., etc. Donc voilà, ces deux termes qui ne font pas proprement parler partie du champ et qui s'imposent pour différentes raisons d'actualité.
Parce que c'est ça, c'est pas comme un dictionnaire, en fait. Vous exposez certains termes, il y a des moments clés, la conférence de Wannsee, les principaux acteurs, les principaux lieux du crime, des données objectives, en tout cas, voilà. Mais vous tranchez aussi sur certaines controverses, par exemple le rôle de l'Église ou la Pologne, celui de la Pologne. En tout cas,
on expose les faits d'une part, et d'autre part, on montre que si vous prenez par exemple la question de l'Église, ça a été une des questions qui ont été au cœur dès les années 60, avec des pièces de théâtre, des films, enfin ça s'est étiré sur des décennies. Un des derniers épisodes, ça a été, enfin de ces interrogations, c'est le Amen de Costa-Gavras et Jean-Claude Grimbert. Est-ce qu'on peut d'abord parler de l'Église avec un E majuscule, alors qu'il y a l'Église catholique, l'Église orthodoxe, les Églises protestantes, et puis après si vous descendez, en fait on tombe au niveau individuel, donc il y a plein d'interrogations, c'est très difficile d'apporter une réponse oui ou non sur le rôle de l'Église, ou l'Église est compromise ou pas. En fait on essaie juste de montrer qu'on a affaire à un éventail très large, et qu'on ne peut pas juste, pour des questions idéologiques, dire l'Église est coupable ou l'Église est innocente. On a affaire à quelque chose de beaucoup plus complexe. Et voilà, il ne s'agit pas tant de trancher que d'exposer l'état de l'historiographie aujourd'hui. Voilà. Avec évidemment ce que les écoles dont nous faisons partie, et les hypothèses auxquelles on souscrit, soit sur la base, moi sur la base de mes travaux par exemple, ou alors d'hypothèses qui sont reconnues par la majorité des historiens aujourd'hui. Vous trouverez toujours un historien qui vous dira que oui, les Alliés ont laissé mourir les Juifs, ce qui est absurde, mais l'immense majorité des historiens sur la base de travaux sérieux vous démontrent par A plus B que voilà, c'est absolument pas le cas.
Pour finir, j'aimerais qu'on revienne sur un certain nombre d'auteurs et d'œuvres qui sont cités dans ce livre. C'est assez diversifié et en même temps, voilà. Vous me direz si j'en oublie, il y a Anne Frank, Primo Levi, Elie Wiesel, mais aussi, plus tardivement, la liste de Schindler et Emmaüs qui sont cités.
On a essayé de choisir un certain nombre d'œuvres à proprement parler. Qui ont différentes origines, c'est-à-dire Primo Levi, Anne Frank ou Elie Wiesel, ce sont des victimes, mais des témoins, qui ont écrit, soit pendant l'événement, le journal d'Anne Frank, soit après l'événement, Elie Wiesel, et qui ont des œuvres qui ont fait date pour une raison ou une autre. Primo Levi, évidemment, étant l'auteur le plus important avec Anne Frank. Elie Wiesel constitue un moment d'un point de vue historique, et aux États-Unis, il a joué un rôle fondamental dans la prise de conscience de l'histoire de la Shoah. Mais d'autre part, et c'est ce que vous disiez au début, c'est que de cette présence de l'évocation de la Shoah, aujourd'hui, c'est avant tout par le biais d'œuvres ou de documentaires. Et si vous prenez en termes cinématographiques, l'une des œuvres les plus importantes ou qui a été vue par le plus grand nombre de spectateurs et téléspectateurs, c'est la liste de Schindler.
Plus que Holocaust.
Évidemment, oui, pour une raison très simple. Holocaust, c'est une série télévisée. Donc, qui a été vu par les pays qui ont acquis cette série, qui a eu un impact très important, sauf que cette série télé, elle a été diffusée combien de fois à la télé? Si vous regardez la liste de Schindler, depuis 20 ans, c'est diffusé très régulièrement. Alors, c'est sorti au cinéma, un peu partout dans le monde, puis ensuite, c'est diffusé quasiment tous les ans ou tous les deux ans sur une chaîne de télé ou une autre dans tous les pays du monde. Donc, l'impact est considérable. Mais effectivement, Holocaust, qu'on n'a pas mis dedans, c'était dans la liste initiale. On aurait pu traiter de Holocauste. Et même chose avec Maus, qui est certes une bande dessinée, mais qui est un des principaux témoignages sur la Shoah, qui est l'équivalent de Primo Levi. Sauf que énormément de gens, et c'est pour ça aussi qu'on l'a mis, ne comprennent pas que Maus n'a rien d'une fiction, que c'est la réalité. Alors il y a énormément de gens qui disent Maus, c'est pas un témoignage, les Juifs sont dessinés avec des souris, avec des têtes de souris. Mais ça reflète les problèmes, enfin la manière dont les gens ont des problèmes avec la représentation. Pour eux, le film, c'est la réalité. Il y a pas de mise, ils oublient qu'il y a une mise en scène, qu'il y a des choix. Le film ou la photo, c'est la réalité. Le dessin, ça serait la fiction. C'est totalement faux. Un film peut être mensonger et un dessin peut être tout à fait réaliste. Spiegelman a choisi de dessiner ses personnages avec des têtes d'animaux. Le résultat en fait une œuvre majeure qui est totalement conforme à la réalité. Tout simplement parce que ça décrit ce qui s'est passé en Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale et l'histoire des Juifs de Pologne, c'est-à-dire la solution finale.
Je vous remercie beaucoup, Tal Brotman, d'être venu aujourd'hui. Je rappelle que les 100 mots de la Shoah sont parus dans la collection Que sais-je aux Presses universitaires de France. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire-vive au pluriel.net.